Chapitre 4. En février 1822, Madame Bridau s'était établie dans la chambre précédemment occupée par Philippe et située au-dessus de la cuisine de son ancien appartement. L'atelier et la chambre du peintre se trouvaient en face de l'autre côté de l'escalier. En voyant sa mère réduite à ce point, Joseph avait voulu du moins qu'elle fût le mieux possible. Après le départ de son frère, il se mêla de l'arrangement de la mansarde à laquelle il imprima le cachet des artistes. Il y mit un tapis. Le lit, disposé simplement mais avec un goût exquis, eut un caractère de simplicité monastique. Les murs, tendus d'une percaline à bon marché, bien choisis, d'une couleur en harmonie avec le mobilier remis à neuf, rendirent cet intérieur élégant et propre. Il ajouta sur le carré une double porte et à l'intérieur une portière. La fenêtre fut cachée par un store qui donnait un jour doux. Si la vie de cette pauvre mère se restreignait à la plus simple expression que puisse prendre à Paris la vie d'une femme, Agathe fut du moins mieux que ce qui se soit dans une situation pareille grâce à son fils. Pour éviter à sa mère les ennuis les plus cruels des ménages parisiens, Joseph l'emmena tous les jours dîner à une table d'hôte de la rue de Beaune, où se trouvaient des femmes comme il faut, des députés, des gens titrés, et qui pour chaque personne coûtaient 90 francs par mois. Chargée uniquement du déjeuner, Agathe reprit pour le fils l'habitude que jadis elle avait pour le père. Malgré les pieux mensonges de Joseph, elle finit par savoir que son dîner coûtait environ 100 francs par mois. Épouvantée par l'énormité de cette dépense, et n'imaginant pas que son fils pût gagner beaucoup d'argent à peindre des femmes nues, elle obtint grâce à l'abbé Loreau, son confesseur, une place de 700 francs par an dans un bureau de loterie appartenant à la comtesse de Beauvan, la veuve d'un chef de Chouan. Les bureaux de loterie, le lot de verre protégé, faisaient assez ordinairement vivre une famille qui s'employait à la gérance. Mais sous la Restauration, la difficulté de récompenser dans les limites du gouvernement constitutionnel tous les services rendus fit donner à des femmes titrées et malheureuses non pas un mais deux bureaux de loterie dont les recettes valaient de 6 à 10 000 francs. Dans ce cas, la veuve du général ou du noble ainsi protégée ne tenait pas ses bureaux par elle-même, elle avait des gérants intéressés. Quand ces gérants étaient garçons, ils ne pouvaient se dispenser d'avoir avec eux un employé, car le bureau devait rester toujours ouvert depuis le matin jusqu'à minuit, et les écritures exigées par le ministère des Finances étaient d'ailleurs considérables. La comtesse de Beauvan, à qui l'abbé Loreau expliqua la position de la veuve Bridau, promit, au cas où son gérant s'en irait, la survivance pour Agathe. Mais en attendant, elle stipula pour la veuve 600 francs d'appointement. Obligée d'être au bureau dès 10 heures du matin, la pauvre Agathe eut à peine le temps de dîner. Elle revenait à 7 heures du soir au bureau, d'où elle ne sortait pas avant minuit. Jamais Joseph, pendant 2 ans, ne faillit un seul jour à venir chercher sa mère le soir pour la ramener rue Mazarine, et souvent, il l'allait prendre pour dîner. Ses amis lui virent quitter l'opéra, les Italiens et les plus brillants salons pour se trouver avant minuit rue Vivienne. Agathe contracta bientôt cette monotone régularité d'existence dans laquelle les personnes atteintes par les chagrins violents trouvent un point d'appui. Le matin, après avoir fini sa chambre où il n'y avait plus ni chat ni petits oiseaux, et préparait le déjeuner au coin de sa cheminée, elle le portait dans l'atelier, où elle déjeunait avec son fils. Elle arrangeait la chambre de Joseph, éteignait le feu chez elle, venait travailler dans l'atelier près du petit poêle en fonte et sortait dès qu'il venait un camarade ou des modèles. Quoiqu'elle ne comprît rien à l'art ni à ses moyens, le silence profond de l'atelier lui convenait. Sous ce rapport, elle ne fit pas un progrès, elle n'y mettait aucune hypocrisie. Elle s'étonnait naïvement de voir l'importance qu'on attachait à la couleur, à la composition, au dessin. Quand un des amis du Cénacle ou quelques peintres amis de Joseph, comme Schinner, Pierre Grassou, Léon de Delora, très jeune rapin qu'on appelait alors Mistigri, discutait, elle venait regarder avec attention et ne découvrait rien de ce qui donnait lieu à ces grands mots et à ces chaudes disputes. Elle faisait le linge de son fils, lui raccommodait ses bas, ses chaussettes. Elle arriva jusqu'à lui nettoyer sa palette, à lui ramasser les linges pour essuyer ses brosses, à tout mettre en ordre dans l'atelier. En voyant sa mère avoir l'intelligence de ces petits détails, Joseph la comblait de soins. Si la mère et le fils ne s'entendaient point en fait d'art, ils s'unirent admirablement par la tendresse. La mère avait son projet. Quand Agathe eut amadoué Joseph, un matin, pendant qu'il esquissait un immense tableau réalisé plus tard et qui ne fut pas compris, elle se hasarda à dire tout haut « Mon Dieu, que fait-il ?»« Qui ?»« Ben Philippe !»« Oh, ce garçon-là mange de la vache enragée et il se formera. » Mais il a déjà connu la misère, et peut-être est-ce la misère qui nous l'a changé. S'il était heureux, il serait bon. Tu crois, ma chère mère, qu'il a souffert dans son voyage? Mais tu te trompes. Il a fait le carnaval à New York comme il le fait encore ici. S'il souffrait cependant près de nous, ce serait affreux. Oui, répondit Joseph. Quant à ce qui me regarde, je donnerai volontiers de l'argent, mais je ne veux pas le voir. Il a tué la pauvre des coins. Ainsi, reprit Agathe, tu ne ferais pas son portrait? Pour toi, ma mère, je souffrirais le martyr. Je puis bien me souvenir que d'une chose, c'est qu'il est mon frère. Son portrait en capitaine de dragons à cheval. Oui, j'ai là un beau cheval d'après Gros. Je ne sais à quoi l'utiliser. Eh bien, va donc savoir chez son ami ce qu'il devient. J'irai. Agathe se leva. Ses ciseaux, tout tomba par terre. Elle vint embrasser Joseph sur la tête et cacha deux larmes dans ses cheveux. « C'est ta passion à toi, ce garçon, » dit-il. « Et nous avons tous notre passion malheureuse. » Le soir, Joseph alla rue du Sentier et y trouva vers 4 heures son frère qui remplaçait Giroudeau. Le vieux capitaine de dragon était passé caissier à un journal hebdomadaire entrepris par son neveu. Quoique Finot restât propriétaire du petit journal qu'il avait mis en action et dont toutes les actions étaient entre ses mains, le propriétaire et le rédacteur en chef visible était un de ses amis, mais Lousteau, précisément le fils du subdélégué d'Issoudun, de qui le grand-père de Bridau avait voulu se venger et conséquemment le neveu de Madame Hochon. Pour être agréable à son oncle, Finot lui avait donné Philippe pour remplaçant, en diminuant toutefois de moitié les appointements. Puis tous les jours, à 5 heures, Giroudeau vérifiait la caisse et emportait l'argent de la recette journalière. Coloquinte, l'invalide qui servait de garçon de bureau et qui faisait les courses, surveillait un peu le capitaine Philippe. Philippe se comportait bien d'ailleurs. 600 francs d'appointement et 500 francs de sa croix le faisaient d'autant mieux vivre que, chauffé pendant la journée, passant ses soirées au théâtre, où il allait gratis, il n'avait qu'à penser à sa nourriture et à son logement. Coloquinte partait avec du papier timbré sur la tête, et Philippe brossait ses fausses marches en toile verte quand Joseph entra. « Tiens, voilà le moutard !» dit Philippe. « Eh bien, nous allons dîner ensemble, tu viendras à l'opéra. Florine et Florentine ont une loge. J'y vais avec Giraudeau, tu en seras, et tu feras connaissance avec Nathan. » Il prit sa canne plombée et mouilla son cigare. « Non, je ne puis pas profiter de ton invitation. J'ai notre mère à conduire. Nous dînons à la table d'hôte. » « Ah, eh bien, comment va-t-elle, cette pauvre bonne femme ?»« Elle ne va pas mal, » répondit le peintre. « J'ai refait le portrait de notre père et celui de notre tante des coins. J'ai fini le mien, et je voudrais donner à notre mère le tien, en uniforme des dragons de la garde impériale. »« Bien, mais il faut venir poser. » je suis tenu d'être tous les jours dans cette cage à poulets, depuis 9 heures jusqu'à 5 heures. Deux dimanches suffiront. Convenu, petit, reprit l'ancien officier d'ordonnance de Napoléon, en allumant son cigare à la lampe du portier. Quand Joseph expliqua la position de Philippe à sa mère en allant dîner rue des Bournes, il lui sentit trembler le bras sur le sien. La joie illumina ce visage passé. La pauvre femme respira comme une personne débarrassée d'un poids énorme. Le lendemain, elle eut pour Joseph des attentions que son bonheur et la reconnaissance lui inspirèrent. Elle lui garnit son atelier de fleurs et lui acheta 2 jardinières. Le premier dimanche pendant lequel Philippe dut venir poser, Agathe eut soin de préparer dans l'atelier un déjeuner exquis. Elle mit tout sur la table, sans oublier un flacon d'eau-de-vie qui n'était qu'à moitié plein. Elle resta derrière un paravent auquel elle fit un trou. L'ex-dragon avait envoyé la veille son uniforme qu'elle ne put s'empêcher d'embrasser. Quand Philippe posa tout habillé sur un de ses chevaux empaillés qu'on les sellait et que Joseph avait loué, Agathe fut obligée, pour ne pas se trahir, de confondre le léger bruit de ses larmes avec la conversation des deux frères. Philippe posa 2 heures avant et 2 heures après le déjeuner. À 3 heures après-midi, le dragon reprit ses habits ordinaires et, tout en fumant un cigare, il proposa pour la seconde fois à son frère d'aller dîner ensemble au palais royal. Il fit sonner de l'or dans son gousset. « Bon, répondit Joseph, mais tu m'effraies quand je te vois de l'or. Ah, oh, ça, vous aurez donc toujours mauvaise opinion de moi ici !» s'écria le lieutenant-colonel d'une voix tonnante. « On ne peut donc pas faire des économies ?»« Non, non, » répondit Agathe en sortant de sa cachette et venant embrasser son fils. « Allons dîner avec lui, Joseph. » Joseph n'osa pas gronder sa mère, il s'habilla, et Philippe les mena vers la rue Montorgueil, au Rocher de Cancale, où il leur donna un dîner splendide dont la carte s'éleva jusqu'à 100 francs. « Diantre, dit Joseph inquiet, avec 100 francs d'appointement, tu fais comme Ponchard dans la Dame Blanche, des économies à pouvoir acheter des terres. Bah, je suis en veine, répondit le dragon qui avait énormément bu. En entendant ce mot dit sur le pas de la porte et avant de monter en voiture pour aller au spectacle, car Philippe menait sa mère au cirque olympique, seul théâtre où son confesseur lui permit d'aller, Joseph serra le bras de sa mère, qui finit aussitôt d'être indisposée et qui refusa le spectacle. Philippe reconduisit alors sa mère et son frère rue Mazarine, où, quand elle se trouva seule avec Joseph dans sa mansarde, elle resta profondément silencieuse. Le dimanche suivant, Philippe revint poser. Cette fois, sa mère assista visiblement à la séance. Elle servit le déjeuner et put questionner le dragon. Elle apprit alors que le neveu de la vieille Madame Hochon, l'amie de sa mère, jouait un certain rôle dans la littérature. Philippe et son ami Giroudot se trouvaient dans une société de journalistes, directrices, d'actrices, de libraires, et étaient considérés en qualité de caissiers. Philippe, qui buvait toujours du kirsch en posant après le déjeuner, eut la langue déliée. Il se vanta de redevenir un personnage avant peu de temps. Mais sur une question de Joseph relative à ses moyens pécuniaires, il garda le silence. Par hasard, il n'y avait pas de journal le lendemain à cause d'une fête, et Philippe, pour en finir, proposa de venir poser le lendemain. Joseph lui représenta que l'époque du salon approchait, il n'avait pas l'argent des deux quadres pour ses tableaux, et ne pouvait se les procurer qu'en achevant la copie d'un Rubens qui voulait avoir un marchand de tableaux nommé Magus. L'original appartenait à un riche banquier suisse qui ne l'avait prêté que pour 10 jours, et la journée de demain était la dernière. Il fallait donc absolument remettre la séance au prochain dimanche. « C'est ça ?» dit Philippe en regardant le tableau de Rubens posé sur un chevalet. « Oui, répondit Joseph, cela vaut 20 000 francs. Voilà ce que peut le génie. Il y a des morceaux de toile qui valent des 100 000 francs. « Bon, j'aime mieux ta copie, » dit le dragon. « Elle est plus jeune, » dit Joseph en riant. « Même ma copie ne vaut que 1 000 francs. Il me faut demain pour lui donner tous les tons de l'original et la vieillir, afin qu'on ne les reconnaisse pas. « Adieu, ma mère, » dit Philippe en embrassant Agathe. « À dimanche prochain. » Le lendemain, Elie Magus devait venir chercher sa copie. Un ami de Joseph, qui travaillait pour ce marchand, Pierre Grassou, voulut voir cette copie finie. Pour lui jouer un tour en l'entendant frapper, Joseph Brideau mit sa copie vernie avec un vernis particulier à la place de l'original et plaça l'original sur son chevalet. Il mystifia complètement Pierre Grassou de Fougères, qui fut émerveillé de ce tour de force. Oh, « Tromperais-tu le vieil Elie Magus ?» lui dit Pierre Grassou. « Nous allons voir, » dit Joseph. Le marchand ne vint pas, il était tard. Agathe dînait chez Madame Desroches, qui venait de perdre son mari. Joseph proposa donc à Pierre Grassou de venir à sa table d'hôte. En descendant, il laissa, suivant ses habitudes, la clé de son atelier à la portière. « Je dois poser ce soir, » dit Philippe à la portière, 1 heure après le départ de son frère. « Joseph va revenir et je vais l'attendre dans l'atelier. » La portière donna la clé. Philippe monta, prit la copie en croyant prendre le tableau, puis il redescendit, remit la clé à la portière, en paraissant avoir oublié quelque chose, et alla vendre le Rubens 3 000 francs. Il avait eu la précaution de prévenir Elie Magus de la part de son frère de ne venir que le lendemain. Le soir, quand Joseph, qui ramenait sa mère de chez Madame Veuve Desroches, rentra, le portier lui parla de la fable de son frère, qui était aussitôt sorti qu'entré. « Oh, je suis perdu! S'il n'a pas eu la délicatesse de ne prendre que la copie !» s'écria le peintre en devinant le vol. Il monta rapidement les 3 étages, se précipita sur son atelier et dit « Ah, Dieu soit loué !»« Ah, il a été ce qu'il sera toujours, un vil coquin !» Agathe, qui avait suivi Joseph, ne comprenait rien à cette parole. Mais quand son fils la lui eut expliquée, elle resta debout, sans larmes aux yeux. « Je n'ai donc plus qu'un fils, » dit-elle d'une voix faible. « Nous n'avons pas voulu le déshonorer aux yeux des étrangers, » reprit Joseph. « Mais maintenant, il faut le consigner chez le portier. Désormais, nous garderons nos clés. J'achèverai sa maudite figure de mémoire. Il y manque peu de choses. » « Laisse-la comme elle est. Il me ferait trop de mal à voir, » répondit la mère, atteinte au fond du cœur et stupéfaite de tant de lâcheté. Philippe savait à quoi devait servir l'argent de cette copie. Il connaissait l'abîme où il plongeait son frère et n'avait rien respecté. Depuis ce dernier crime, Agathe ne parla plus de Philippe. Sa figure prit l'expression d'un désespoir amer, froid et concentré. Une pensée la tuait. « Mais quelques jours, se disait-elle, nous verrons Brideau devant les tribunaux. » 2 mois après, au moment où Agathe allait entrer dans son bureau de loterie un matin, il se présenta pour voir Madame Brideau, qui déjeunait avec Joseph, un vieux militaire se disant Paul Mille habillé Philippe et amené par une affaire urgente. Quand Giroudeau se nomma, la mère et le fils tremblèrent, d'autant plus que l'ex-dragon avait une physionomie de vieux loup de mer peu rassurante. Ses 2 yeux gris éteints, sa moustache pisse et reste de chevelure ébouriffée autour de son crâne couleur beurre frais, offrait je ne sais quoi déraillé de libidineux. Il portait une vieille redingote grise de fer ornée de la rosette d'officier de la Légion d'honneur et qui croisait difficilement sur un ventre de cuisinier en harmonie avec sa bouche fendue jusqu'aux oreilles, avec de fortes épaules. Son torse reposait sur de petites jambes grêles. Enfin, il montrait un teint enlumineux et aux pommettes qui révélaient une vie joyeuse. Le bas des joues, fortement ridé, débordait un col de velours noir usé. Entre autres enjolivements, l'ex-dragon avait d'énormes boucles d'or aux oreilles. « Quel noceur !» se dit Joseph, en employant une expression populaire passée dans les ateliers. « Madame, dit l'oncle et le caissier de Finot, votre fils se trouve dans une situation si malheureuse qu'il est impossible à ses amis de ne pas vous prier davantage de partager les charges assez lourdes qu'il leur impose. Il ne peut plus remplir sa place au journal. » Et mademoiselle Florentine de la Porte Saint-Martin le loge chez elle, rue de Vendôme, dans une pauvre mansarde. Philippe est mourant. Si son frère et vous ne pouvez payer le médecin et les remèdes. Nous allons être forcés, et dans l'intérêt même de sa guérison, de le faire transporter aux Capucins. Tandis que pour 300 francs, nous le garderions. Il lui faut absolument une garde. Il sort le soir pendant que Mademoiselle Florentine est au théâtre. Il prend alors des choses irritantes, contraires à sa maladie et à son traitement. Et comme nous l'aimons, il nous rend vraiment malheureux. Ce pauvre garçon a engagé sa pension pour 3 ans. Il est remplacé provisoirement au journal et n'a plus rien. Mais il va se tuer, madame, si nous ne le mettons pas à la maison de santé du docteur Dubois. Cet hospice décent coûtera 10 francs par jour. Nous ferons, Florentine et moi, la moitié d'un mois. Faites l'autre. Allez. Il n'en aura guère que pour 2 mois. Monsieur, il est difficile qu'une mère ne vous soit pas éternellement reconnaissante de ce que vous faites pour son fils, répondit Agathe. Mais ce fils est retranché de mon cœur. Et quant à de l'argent, je n'en ai point. Pour ne pas être à la charge de mon fils que voici, qui travaille jour et jour, qui se tue et qui mérite tout l'amour de sa mère, j'entre après-demain dans un bureau de loterie comme sous-régente, à mon âge. Et vous, jeune homme, dit le vieux dragon à Joseph, voyons, ne ferez-vous pas pour votre frère ce que font une pauvre danseuse de la porte Saint-Martin et un vieux militaire? Tenez, voulez-vous, dit Joseph impatienté, que je vous exprime en langage d'artiste l'objet de votre visite? Eh bien, vous venez nous tirer une carotte. Demain, donc, votre frère ira à l'hôpital du Midi. Il y sera très bien, reprit Joseph. Si jamais j'étais en pareil cas, j'irai, moi. Giroudeau se retira très désappointé, mais aussi très sérieusement humilié d'avoir à mettre aux Capucins un homme qui avait porté les ordres de l'empereur pendant la bataille de Montereau. 3 mois après, vers la fin du mois de juillet, un matin, en allant à son bureau de loterie, Agathe, qui prenait par le pont neuf pour éviter de donner le sou du pont des Arts, aperçut le long des boutiques du quai de l'école où elle longeait le parapet, un homme portant la livrée de la misère du second ordre et qui lui causa un éblouissement. Elle lui trouva quelque ressemblance avec Philippe. Il existe en effet à Paris 3 ordres de misère. D'abord, la misère de l'homme qui conserve les apparences et à qui l'avenir appartient. Misère des jeunes gens, des artistes, des gens du monde momentanément atteints. Les indices de cette misère ne sont visibles qu'au microscope de l'observateur le plus exercé. Ces gens constituent l'ordre équestre de la misère. Ils vont encore en cabriolet. Dans le second ordre se trouvent les vieillards à qui tout est indifférent, qui mettent au mois de juin la croix de la Légion d'honneur sur une redingote d'alpaga. C'est la misère des vieux rentiers, des vieux employés qui vivent à Sainte-Périne et qui du vêtement extérieur ne se soucient plus guère. Enfin, la misère en haillons, la misère du peuple, la plus poétique d'ailleurs, et que Callot, Cogarque, Murillo, Charlet, Raffet, Gavarni, Meissonnier, que l'art adore et cultive, au carnaval surtout. L'homme en qui la pauvre Agathe crut reconnaître son fils était à cheval sur les 2 derniers ordres. Elle aperçut un col horriblement usé, un chapeau galeux, des bottes éculées rapiécées, une redingote filandreuse à boutons sans moule, dont les capsules béantes ou recroquevillées étaient en parfaite harmonie avec des poches usées et un collet crasseux. Des vestiges de duvet disaient assez que Si la redingote contenait quelque chose, ce ne pouvait être que de la poussière. L'homme sortit des mains aussi noires que celles d'un ouvrier d'un pantalon gris de fer décousu. Enfin, sur la poitrine, un gilet de laine tricoté, bruni par l'usage, qui débordait les manches, qui passait au-dessus du pantalon, se voyait partout et tenait sans doute lieu de linge. Philippe portait un garde-vue en taffetas vert et en fil d'arcal. Sa tête presque chauve, son teint, sa figure hâve, disaient assez qu'il sortait du terrible hôpital du Midi. Sa redingote bleue blanchie aux lisières était toujours décorée de la rosette. Aussi les passants regardaient-ils ce brave, sans doute une victime du gouvernement, avec une curiosité mêlée de pitié. Car la rosette inquiétait le regard et jetait l'ultra le plus féroce en des doutes honorables pour la Légion d'honneur. En ce temps-là, quoi qu'on eût essayé de déconsidérer cet ordre par des promotions sans frein, il n'y avait pas en France 53 000 personnes décorées. Agathe sentit tressaillir son être intérieur. S'il lui était impossible d'aimer ce fils, elle pouvait encore beaucoup souffrir par lui. Atteinte par un dernier rayon de maternité, elle pleura quand elle vit faire au brillant officier d'ordonnance de l'empereur le geste d'entrer dans un débit de tabac pour y acheter un cigare et s'arrêter sur le seuil. Il avait fouillé dans sa poche, n'y trouvait rien. Agathe traversa rapidement le quai, prit sa bourse, la mit dans la main de Philippe et se sauva comme si elle venait de commettre un crime. Elle resta 2 jours sans pouvoir rien prendre. Elle avait toujours devant les yeux l'horrible figure de son fils mourant de faim dans Paris. Après avoir épuisé l'argent de ma bourse, qui lui en donnera, pensait-elle. Giroudeau ne nous trompait pas. Philippe sort de l'hôpital. Elle ne voyait plus l'assassin de sa pauvre tante, le fléau de la famille, le voleur domestique, le joueur, le buveur, le débauché de bas étage. Elle voyait un convalescent mourant de faim, un fumeur sans tabac. Elle devint à 47 ans comme une femme de 70. Ses yeux se ternirent alors dans les larmes et la prière. Mais ce ne fut pas le dernier coup que ce fils devait lui porter, et sa prévision la plus horrible fut réalisée. On découvrit alors une conspiration d'officiers au sein de l'armée, et l'on cria par les rues l'extrait du moniteur qui contenait des détails sur les arrestations. Agathe entendit du fond de sa cage, dans le bureau de loterie de la rue Vivienne, le nom de Philippe Bridau. Elle s'évanouit, et le gérant, qui comprit sa peine et la nécessité de faire des démarches, lui donna un congé de 15 jours. Ah, mon ami, c'est nous, avec notre rigueur, qui l'avons poussé là, dit-elle à Joseph en se mettant au lit. Je vais aller voir Desroches, lui répondit Joseph. Pendant que l'artiste confiait les intérêts de son frère à Desroches, qui passait pour le plus madré et le plus astucieux des avoués de Paris, et qui d'ailleurs rendait des services à plusieurs personnages, entre autres à Deslupeaux, alors secrétaire général d'un ministère, Giroudeau se présentait chez la veuve qui cette fois eut confiance en lui. « Madame, lui dit-il, trouvez 12 000 francs et votre fils sera mis en liberté, faute de preuves. Il s'agit d'acheter le silence de 2 témoins. » Je les aurai, dit la pauvre mère, sans savoir ni où ni comment. Inspirée par le danger, elle écrivit à sa marraine, la veille Madame Mauchon, de les demander à Jean-Jacques Rouget pour sauver Philippe. Si Rouget refusait, elle pria Madame Mauchon de les lui prêter en s'engageant à les lui rendre en 2 ans. Courrier par courrier, elle reçut la lettre suivante. « Ma petite, quoique votre frère ait bel et bien 40 000 livres de rente, sans compter l'argent économisé depuis 17 années, que M. Hochon estime à plus de 600 000 francs, il ne donnera pas 2 liards pour des neveux qu'il n'a jamais vus. Quant à moi, vous ignorez que je ne disposerai pas de 6 livres tant que mon mari vivra. Hochon est le plus grand avare d'Issoudun. J'ignore ce qu'il fait de son argent. Il ne donne pas 20 francs par an à ses petits-enfants. Pour emprunter, j'aurais besoin de son autorisation, et il me la refuserait. Je n'ai pas même tenté de faire parler à votre frère, qui a chez lui une concubine de laquelle il est le très humble serviteur. C'est pitié que de voir comment le pauvre homme est traité chez lui, quand il a une sœur et des neveux. Je vous ai fait sous-entendre à plusieurs reprises que votre présence à Issoudun pourrait sauver votre frère et arracher pour vos enfants des griffes de cette vermine une fortune de 40 et peut-être 60 000 livres de rente. Mais vous ne me répondez pas, vous paraissez ne l'avoir jamais comprise. Aussi suis-je obligé de vous écrire aujourd'hui sans aucune précaution épistolaire. Je prends bien part au malheur qui vous arrive, mais je ne puis que vous plaindre, ma chère mignonne. Voilà pourquoi je ne puis vous mettre bon à rien. À 85 ans, Hochon fait ses 4 repas, mange de la salade avec des œufs durs le soir et court comme un lapin. J'aurai passé ma vie entière, car il fera mon épitaphe sans avoir vu 20 livres dans ma bourse. Si vous voulez venir à Issoudun combattre l'influence de la concubine sur votre frère, comme il y a des raisons pour que Rouget ne nous reçoive pas chez lui, j'aurai déjà bien de la peine à obtenir de mon mari la permission de vous avoir chez moi. Mais vous pouvez y venir, il m'obéira sur ce point. Je connais un moyen d'obtenir ce que je veux de lui, c'est de lui parler de mon testament. Mais cela me semble si horrible que je n'y ai jamais eu recours. Mais pour vous, je ferai l'impossible. J'espère que votre Philippe s'en tirera, surtout si vous prenez un bon avocat. Mais arrivez le plus tôt possible à Issoudun. Songez qu'à 57 ans, votre imbécile de frère est plus chétif et plus vieux que M. Hochon. Ainsi la chose presse. On parle déjà d'un testament qui vous priverait de la succession, mais au dire de M. Hochon, il est toujours temps de le faire révoquer. Adieu, ma petite Agathe, que Dieu vous aide, et comptez aussi sur votre marraine qui vous aime. Maximilienne Hochon, née Lousteau. Postscriptum. Mon neveu Étienne, qui écrit dans les journaux et qui s'est lié, dit-on, avec votre fils Philippe, est-il venu vous rendre ses devoirs? Mais venez, nous causerons de lui. Cette lettre occupa fortement Agathe. Elle la montra nécessairement à Joseph, à qui elle fut forcée de raconter la proposition de Giroudeau. L'artiste, qui devenait prudent dès qu'il s'agissait de son frère, fit remarquer à sa mère qu'elle devait tout communiquer à Desroches. Frappés de la justesse de cette observation, le fils et la mère allèrent le lendemain matin, dès 6 heures, trouver Desroches rue de Bussy. Cet avoué, sec comme défunt son père, à la voix aigre, au teint âpre, aux yeux implacables, un visage de fouine qui se lèche les lèvres du sang des poulets, bondit comme un tigre en apprenant la visite et la proposition de Giroudeau. « Mais ah, ça, mère Bridau !» s'écria-t-il de sa petite voix cassée. « Jusqu'à quand serez-vous la dupe de votre maudit brigand de fils ? Mais ne donnez pas 2 liards !»« Je vous réponds de Philippe, c'est pour sauver son avenir que je tiens à le laisser juger par la cour des pairs. Vous avez peur de le voir condamné, mais Dieu veuille que son avocat laisse obtenir une condamnation contre lui. Allez, à Issoudun, sauvez la fortune de vos enfants. Si vous n'y parvenez pas, si votre frère a fait un testament en faveur de cette femme, et si vous ne savez pas le faire révoquer, eh bien, rassemblez au moins les éléments d'un procès en captation, je le mènerai. Mais vous êtes trop honnête femme pour savoir trouver les bases d'une instance de ce genre. Vos vacances, j'irai, moi, à Issoudun, si je puis. Ce « J'irai, moi !» fit trembler l'artiste dans sa peau. Desroches cligna de l'œil pour dire à Joseph de laisser aller sa mère un peu en avant, et il le garda pendant un pas moment tout seul. « Votre frère est un grand misérable. Il est volontairement ou involontairement la cause de la découverte de la conspiration, car le drôle est si fin qu'on ne peut pas savoir la vérité là-dessus. » Entre niais ou traître, choisissez-lui un rôle. Il sera sans doute mis sous la surveillance de la haute police, voilà tout. Soyez tranquille, il n'y a que moi qui sache ce secret. Courez à Issoudun avec votre mère, vous avez de l'esprit, tâchez de sauver cette succession. Allons, ma pauvre mère, Desroches a raison, dit-il en rejoignant Agathe dans l'escalier. « J'ai vendu mes 2 tableaux. Allez, partons pour le Berry, puisque tu as 15 jours à toi. » Après avoir écrit à sa marraine pour lui annoncer son arrivée, Agathe et Joseph se mirent en route le lendemain soir pour Issoudun, abandonnant Philippe à sa destinée. La diligence passa par la rue d'Enfer pour prendre la route d'Orléans. Quand Agathe aperçut le Luxembourg où Philippe avait été transféré, elle ne put s'empêcher de dire « Sans les alliés, ils ne seraient pourtant pas là. » Bien des enfants auraient fait un mouvement d'impatience, auraient souri de pitié, mais l'artiste qui se trouvait seul avec sa mère dans le coupé la saisit, la pressa contre son cœur en disant « Oh, mère, mais tu es mère comme Raphaël était peintre, et tu seras toujours une imbécile de mère. » Bientôt arrachée à ses chagrins par les distractions de la route, Madame Bridau fut contrainte à songer au but de son voyage. Naturellement, elle relut la lettre de Madame Hochon qui avait si fort ému l'avoué Desroches. Frappée alors des mots « concubine » et « vermine » que la plume d'une septuagénaire aussi pieuse que respectable avait employé pour désigner la femme en train de dévorer la fortune de Jean-Jacques Rouget, traitée lui-même d'imbécile, elle se demanda comment elle pouvait, par sa présence à Issoudun, sauver une succession. Joseph, ce pauvre artiste si désintéressé, savait peu de choses du code, et l'exclamation de sa mère le préoccupa. Mais avant de nous envoyer sauver une succession, notre ami Desroches aurait bien dû nous expliquer les moyens par lesquels on s'en empare, s'écria-t-il. Autant que ma tête étourdie encore à l'idée de savoir Philippe en prison, sans tabac peut-être, sur le point de comparaître à la cour des pairs, me laisse de mémoire, repartit Agathe. Il me semble que le jeune Desroches nous a dit de rassembler les éléments d'un procès en captation pour le cas où mon frère aurait fait un testament en faveur de cette femme. Ah, il est bon, là, des roches, s'écria le peintre. Bah, si nous n'y comprenons rien, je le prierai d'y aller.
Ne nous cassons pas la tête inutilement, dit Agathe. Quand nous serons à Issoudun, ma marraine nous guidera.
Cette conversation, tenue au moment où, après avoir changé de voiture à Orléans, Madame Bridau et Joseph entraient dans Sologne, indique assez l'incapacité du peintre et de sa mère à jouer le rôle auquel le terrible maître des roches les destinait. Mais en revenant à Issoudun, après 30 ans d'absence, Agathe allait y trouver de tels changements dans les mœurs qu'il est nécessaire de tracer en peu de mots un tableau de cette ville. Sans cette peinture, on comprendrait difficilement l'héroïsme que déployait Madame Hochon en secourant sa filleule et l'étrange situation de Jean-Jacques Rouget. Quoique le docteur eût fait considérer Agathe comme une étrangère à son fils, il y avait, pour un frère, quelque chose d'un peu trop extraordinaire à rester 30 ans sans donner signe de vie à sa sœur. Ce silence reposait évidemment sur des circonstances bizarres que des parents autres que Joseph et Agathe auraient depuis longtemps voulu connaître. Enfin, il existait entre l'état de la ville et les intérêts des Bridau certains rapports qui se reconnaîtront dans le cours même du récit.
N'en déplaise à Paris, Issoudun est une des plus vieilles villes de France. Malgré les préjugés historiques qui font de l'empereur Probus le Noé des Gaules, César a parlé de l'excellent vin de Champfort, de Campo Forti, un des meilleurs clos d'Issoudun. Rigord s'exprime sur le compte de cette ville en termes qui ne laissent aucun doute sur sa grande population et sur son immense commerce. Mais ces deux témoignages assignerait un assez âge médiocre à cette ville en comparaison de sa haute antiquité. En effet, des fouilles récemment opérées par un savant archéologue de cette ville, M. Armand Pérémet, ont fait découvrir, sous la célèbre tour d'Issoudun, une basilique du 5e siècle, la seule probablement qui existe en France. Cette église garde dans ses matériaux mêmes la signature d'une civilisation antérieure, car ces pierres proviennent d'un temple romain qu'elle a remplacé. Ainsi, d'après les recherches de cet antiquaire, Issoudun, comme toutes les villes de France dont la terminaison ancienne ou moderne comporte un « dun »,« dumum », offrirait dans son nom le certificat d'une existence autochtone. Ce mot « dun », l'apanage de toute éminence consacrée par le culte druidique, annoncerait un établissement militaire et religieux des Celtes. Les Romains auraient bâti, sous le dun des Gaulois, un temple à Isis. De là, selon Chaumeau, le nom de la ville Issoudun. Is serait l'abréviation d'Isis. Richard Cœur de Lion a bien certainement bâti la fameuse tour où il a frappé Monet, au-dessus d'une basilique du 5e siècle, le troisième monument de la troisième religion de cette vieille ville. Il s'est servi de cette église comme d'un point d'arrêt nécessaire à l'exhaussement de son rempart et l'a conservé en la couvrant de ses fortifications féodales comme d'un manteau. Issoudun était alors le siège de la puissance éphémère des routiers et des cottereaux, condottieri, que Henri II opposa à son fils Richard lors de sa révolte contre le comte de Poitou. L'histoire de l'Aquitaine, qui n'a pas été faite par les bénédictins, ne se fera sans doute point, car il n'y a plus de bénédictins. Aussi ne saurait-on trop éclaircir ces ténèbres archéologiques dans l'histoire de nos mœurs, toutes les fois que l'occasion s'en présente. Il existe un autre témoignage de l'antique puissance d'Issoudun dans la canalisation de la Toumemine, petite rivière exhaussée de plusieurs mètres sur une grande étendue de pays au-dessus du niveau de la Théols, la rivière qui entoure la ville. Cet ouvrage est dû sans doute au génie romain. Enfin, le faubourg, qui s'étend du château vers le nord, est traversé par une rue, nommée depuis plus de 2000 ans la rue de Rome. Le faubourg lui-même s'appelle faubourg de Rome. Les habitants de ce faubourg, dont la race, le sang, la physionomie ont d'ailleurs un cachet particulier, se disent descendants des Romains. Ils sont presque tous vignerons et d'une remarquable roideur de mœurs, due sans doute à leur origine et peut-être à leur victoire sur les cottereaux et les routiers qu'ils ont exterminés au XIIe siècle dans la plaine de Charoste. Après l'insurrection de 1830, la France fut trop agitée pour avoir donné son attention à l'émeute des vignerons d'Issoudun, qui fut terrible et dont les détails n'ont pas été d'ailleurs publiés et pour cause. D'abord, les bourgeois d'Issoudun ne permirent point aux troupes d'entrer en ville. Ils voulurent répondre eux-mêmes de leur cité, selon les us et coutumes de la bourgeoisie au Moyen-Âge. L'autorité fut obligée de céder à des gens appuyés par 6 ou 7 000 vignerons qui avaient brûlé toutes les archives et les bureaux des contributions indirectes et qui traînaient de rue en rue un employé de l'octroi disant à chaque réverbère « Allez, c'est là qu'il faut le prendre !» Le pauvre homme fut arraché à ses furieux par la garde nationale qui lui sauva la vie en le conduisant en prison sous prétexte de lui faire son procès. Le général n'entra qu'en vertu d'une capitulation faite avec les vignerons, et il eut du courage à pénétrer leur masse, car au moment où il parut à l'hôtel de ville, un homme du faubourg de Rome lui passa son volant au cou. Le volant est cette grosse serpe attachée à une perche qui sert à tailler les arbres, et lui cria « Pute coumé où il n'y a rien fait !» Ce vigneron aurait abattu la tête à celui que 16 ans de guerre avaient respecté sans la rapide intervention d'un des chefs de la révolte à qui l'on promit de demander aux chambres la suppression des rats de cave. Au XIVe siècle, Issoudun avait encore 16 à 17 000 habitants, reste d'une population double au temps de Rigord. Charles VII y possédait un hôtel qui subsiste et est connu jusqu'au XVIIIe siècle sous le nom de Maison du Roi. Cette ville, alors le centre du commerce des laines, en approvisionnait une partie de l'Europe et fabriquait sur une grande échelle des draps, des chapeaux et d'excellents gains de chevrotin. Sous Louis XIV, Issoudun, à qui l'on dut Baron et Bourdaloue, était toujours citée comme une ville d'élégance, de beau langage et de bonne société. Dans son histoire de Sancerre, le curé Poupart prétendait les habitants d'Issoudun remarquables entre tous les Berrichons par leur finesse et par leur esprit naturel. Aujourd'hui, cette splendeur et cet esprit ont disparu complètement. Issoudun, dont l'étendue atteste l'ancienne importance, se donne 12 000 âmes de population, en y comprenant les vignerons de 4 énormes faubourgs, ceux de Saint-Paterne, de Villatte, de Rome et des Alouettes, qui sont des petites villes. La bourgeoisie, comme celle de Versailles, est au large dans les rues. Issoudun conserve encore le marché des laines du Berry, commerce menacé par les améliorations de la race ovine qui s'introduisent partout et que le Berry n'adopte point. Les vignobles d'Issoudun produisent un vin qui se boit dans 2 départements et qui, s'il se fabriquait comme la Bourgogne et la Gascogne fabriquent le leur, deviendrait un des meilleurs vins de France. Hélas, faire comme faisaient nos pères, ne rien innover, telle est la loi du pays. Les vignerons continuent donc à laisser la râpe pendant la fermentation, ce qui rend détestable un vin qui pourrait être la source de nouvelles richesses et un objet d'activité pour le pays.
grâce à l'âpreté que la râpe lui communique et qui, dit-on, se modifie avec l'âge, ce vin traverse un siècle. Cette raison donnée par le vignoble est assez importante en œnologie pour être publiée. Guillaume le Breton a d'ailleurs célébré dans sa Philippide cette propriété par quelques vers. La décadence d'Issoudun s'explique donc par l'esprit d'immobilisme poussé jusqu'à l'ineptie et qu'un seul fait fera comprendre. Quand on s'occupa de la route de Paris à Toulouse, il était naturel de la diriger de Vierzon sur Châteauroux par Issoudun. La route eût été plus courte qu'en la dirigeant, comme elle l'est, par Vatan. Mais les notabilités du pays et le conseil municipal d'Issoudun, dont la délibération existe, dit-on, demandèrent la direction par Vatan, en objectant que si la grande route traversait leur ville, les vivres augmenteraient le prix et que l'on serait exposé à payer les poulettes 30 sous. On ne trouve l'analogie d'un pareil acte que dans les contrées les plus sauvages de la Sardaigne, pays si peuplé, si riche autrefois et aujourd'hui si désert. Quand le roi Charles Albert, dans une louable pensée de civilisation, voulut joindre Sassari, seconde capitale de l'île, à Cagliari, par une belle et magnifique route, la seule qui existe dans cette savane appelée la Sardaigne, le tracé direct exigeait qu'elle passât par Bonorva, district habité par des gens insoumis, d'autant plus comparables à nos tribus arabes qu'ils descendent des Maures. En se voyant sur le point d'être gagnés par la civilisation, les sauvages de Bonorva, sans prendre la peine de délibérer, signifièrent leur opposition au tracé. Le gouvernement ne tint aucun compte de cette opposition. Le premier ingénieur qui vint planter le premier jalon reçut une balle dans la tête et mourut sur son jalon. On ne fit aucune recherche à ce sujet et la route décrit une courbe qui l'allonge de 8 lieues. À Issoudun, l'avilissement croissant du prix des vins qui se consomment sur place, en satisfaisant ainsi le désir de la bourgeoisie de vivre à bon marché, prépare la ruine des vignerons de plus en plus accablés par les frais de culture et par l'impôt. De même que la ruine du commerce des laines et du pays est préparée par l'impossibilité d'améliorer la race ovine. Les gens de la campagne ont une horreur profonde pour toute espèce de changement, même pour celui qui leur paraît utile à leurs intérêts. Un Parisien trouve dans la campagne un ouvrier qui mangeait à dîner une énorme quantité de pain, de fromage et de légumes. Il lui prouve que s'il substituait à cette nourriture une portion de viande, il se nourrirait mieux, à meilleur marché, qu'il travaillerait davantage et n'userait pas si promptement son capital d'existence. Le Berrichon reconnaît la justesse du calcul. « Mais les disettes, monsieur, répondit-il. »« Quoi, les disettes ? Eh bien oui, quoi qu'on dirait ?»« Il serait la fable de tout le pays, » fit observer le propriétaire sur les terres de qui la scène avait lieu. « On le croirait riche comme un bourgeois. Il a enfin peur de l'opinion publique, il a peur d'être montré au doigt, de passer pour un homme faible ou malade. » Voilà comme nous sommes dans ce pays-là. Beaucoup de bourgeois disent cette dernière phrase avec un sentiment d'orgueil caché. Si l'ignorance et la routine sont invincibles dans les campagnes où l'on abandonne les paysans à eux-mêmes, la ville d'Issoudun est arrivée à une complète stagnation sociale. Obligée de combattre la dégénérescence des fortunes par une économie sordide, chaque famille vit chez soi. D'ailleurs, la société s'y trouve à jamais privée de l'antagonisme qui donne du ton aux mœurs. La ville ne connaît plus cette opposition de deux forces à laquelle on a dû la vie des États italiens au Moyen-Âge. Issoudun n'a plus de nobles. Les cotereaux, les routiers, la jacquerie, les guerres de religion, et la Révolution y ont totalement supprimé la noblesse. La ville est très fière de ce triomphe. Issoudun a constamment refusé, toujours pour maintenir le bon marché des vivres, d'avoir une garnison. Elle a perdu ce moyen de communication avec le siècle, en perdant aussi les profits qui se font avec la troupe. Avant 1756, Issoudun était une des plus agréables villes de garnison. Un drame judiciaire qui occupa toute la France, l'affaire du lieutenant-général au bailliage contre le marquis de Chaptes, dont le fils officier de dragon fut à propos de galanterie justement peut-être même traîtreusement mis à mort, priva la ville de garnison à partir de cette époque. Le séjour de la 44e demi-brigade, imposé durant la guerre civile, ne fut pas de nature à réconcilier les habitants avec la junte militaire. Bourges, dont la population décroît tous les 10 ans, est atteinte de la même maladie sociale. La vitalité déserte ses grands corps. Certes, l'administration est coupable de ses malheurs. Le devoir d'un gouvernement est d'apercevoir ses tâches sur le corps politique et d'y remédier en envoyant des hommes énergiques dans ses localités malades pour y changer la face des choses. Hélas, loin de là, on s'applaudit de cette funeste et funèbre tranquillité. Puis comment envoyer de nouveaux administrateurs ou des magistrats capables? Qui de nos jours est soucieux d'aller s'enterrer en des arrondissements où le bien-faire est sans éclat? Si par hasard on y casse des ambitieux étrangers au pays, ils sont bientôt gagnés par la force d'inertie et se mettent au diapason de cette atroce vie de province. Issoudun aurait engourdi Napoléon. Par suite de cette situation particulière, l'arrondissement d'Issoudun était en 1822 administré par des hommes appartenant tous au Berry. L'autorité s'y trouvait donc annulée ou sans force, hormis les cas naturellement très rares, où la justice est forcée d'agir à cause de leur gravité patente. Le procureur du roi, M. Mouilleron, était le cousin de tout le monde et son substitut appartenait à une famille de la ville. Le président du tribunal, avant d'arriver à cette dignité, se rendit célèbre par un de ces mots qui, en province, coiffe pour toute sa vie un homme d'un bonnet d'âne. Après avoir terminé l'instruction d'un procès criminel qui devait entraîner la peine de mort, il dit à l'accusé « Mon pauvre Pierre, ton affaire est claire, t'auras le cou coupé, que cela te serve de leçon. » Le commissaire de police, commissaire depuis la Restauration, avait des parents dans tout l'arrondissement. Enfin, non seulement l'influence de la religion était nulle, mais le curé ne jouissait d'aucune considération. Cette bourgeoisie libérale, taquine et ignorante, racontait des histoires plus ou moins comiques sur les relations de ce pauvre homme avec sa servante. Les enfants n'en allaient pas moins au catéchisme et n'en faisaient pas moins leur première communion. Il n'y en avait pas moins un collège. On disait bien la messe, on fêtait toujours les fêtes, on payait les contributions, seule chose que Paris veuille de la province. Enfin, le maire y prenait des arrêtés. Mais ces actes de la vie sociale s'accomplissaient par routine. Ainsi, la mollesse de l'administration concordait admirablement à la situation intellectuelle et morale du pays. Les événements de cette histoire peindront d'ailleurs les effets de cet état de choses qui n'est pas si singulier qu'on pourrait le croire. Beaucoup de villes en France, et particulièrement dans le Midi, ressemblent à Issoudun. L'état dans lequel le triomphe de la bourgeoisie a mis ce chef-lieu d'arrondissement est celui qui attend toute la France et même Paris, si la bourgeoisie continue à rester maîtresse de la politique extérieure et intérieure de notre pays. Maintenant un mot de la topographie. Issoudun s'étale du nord au sud sur un coteau qui s'arrondit vers la route de Châteauroux. Au bas de cette éminence, on a jadis pratiqué pour les besoins des fabriques ou pour inonder les douves des remparts au temps où fleurissait la ville, un canal appelé maintenant la rivière Forcée et dont les eaux sont prises à la Théole. La rivière Forcée forme un bras artificiel qui se décharge dans la rivière naturelle au-delà du faubourg de Rome, au point où s'y jettent aussi la Tournemine et quelques autres courants. Ces petits cours d'eau vive et les deux rivières arrosent des prairies assez étendues que cerclent de toutes parts des collines jaunâtres ou blanches parsemées de points morts. Tel est l'aspect des vignobles d'Issoudun pendant 7 mois de l'année. Les vignerons recèpent la vigne tous les ans et ne laissent qu'un moignon hideux et sans échalas au milieu d'un entonnoir. Aussi, quand on arrive de Vierzon, de Vatan ou de Châteauroux, l'œil attristé par des plaines monotones, est-il agréablement surpris à la vue des prairies d'Issoudun, l'oasis de cette partie du Berry qui fournit de légumes les pays à 10 lieues à la ronde. Au-dessous du faubourg de Rome, s'étend un vaste marais entièrement cultivé en potager et divisé en 2 régions qui portent le nom de Bas et de Haut-Baltan. Une vaste et longue avenue ornée de 2 contre-allées de peupliers mène de la ville au travers des prairies à un ancien couvent nommé Frapelle, dont les jardins anglais, uniques dans l'arrondissement, ont reçu le nom ambitieux de Tivoli. Le dimanche, les couples amoureux se font par là leur confidence. Nécessairement, les traces de l'ancienne grandeur d'Issoudun se révèlent à un observateur attentif et les plus marquantes sont les divisions de la ville. Le château, qui dormait autrefois à lui seul, une ville avec des murailles et ses douves, constitue un quartier distinct où l'on ne pénètre aujourd'hui que par les anciennes portes, d'où l'on ne sort que par 3 ponts jetés sur les bras de 2 rivières et qui seuls a la physionomie d'une vieille ville. Les remparts montrent encore de place en place leurs formidables assises sur lesquelles s'élèvent des maisons. Au-dessus du château se dresse la tour qui en était la forteresse. Le maître de la ville étalé autour de ces 2 points fortifiés avait à prendre et la tour et le château. La possession du château ne donnait pas encore celle de la tour. Le faubourg de Saint-Paterne, qui décrit comme une palette au-delà de la tour en mordant sur la prairie, est trop considérable pour ne pas avoir été dans les temps les plus reculés la ville elle-même. Depuis le Moyen-Âge, Issoudun, comme Paris, aura gravi sa colline et se sera regroupé au-delà de la tour et du château. Cette opinion tirait en 1822 une sorte de certitude de l'existence de la charmante église de Saint-Paterne, récemment démolie par l'héritier de celui qui l'acheta de la nation. Cette église, un des plus jolis spécimens d'église romane que posséda la France, a péri sans que personne ait pris le dessin du portail dont la conservation était parfaite. La seule voix qui s'éleva pour sauver le monument ne trouva d'écho nulle part, ni dans la ville, ni dans le département. Quoique le château d'Issoudun ait le caractère d'une vieille ville, avec ses rues étroites et ses vieux logis, la ville proprement dite, qui fut prise et brûlée plusieurs fois à différentes époques, notamment durant la Fronde, où elle brûla tout entière, a un aspect moderne. Des rues spacieuses, relativement à l'état des autres villes, et des maisons bien bâties, forment avec l'aspect du château un contraste assez frappant qui vaut à Issoudun, dans quelques géographies, le nom de joli. Dans une ville ainsi constituée, sans aucune activité même commerciale, sans goût pour les arts, sans occupation savante où chacun reste dans son intérieur, il devait arriver, et il arriva, sous la Restauration en 1816, quand la guerre eut cessé, que, parmi les jeunes gens de la ville, plusieurs n'eurent aucune carrière à suivre et ne surent que faire en attendant leur mariage ou la succession de leurs parents. Ennuyés au logis, ces jeunes gens ne trouvèrent aucun élément de distraction en ville, et comme, suivant un mot du pays, il faut que jeunesse jette sa gourme, ils firent leur farce aux dépens de la ville même. Il leur fut bien difficile d'opérer en plein jour, ils eussent été reconnus, et la coupe de leur crime une fois comblée, ils auraient fini par être traduits à la première peccadille un peu trop forte en police correctionnelle. Ils choisirent donc assez judicieusement la nuit pour faire leur mauvais tour. Ainsi, dans ces vieux restes de tant de civilisations diverses disparues, brilla comme une dernière flamme un vestige de l'esprit de drôlerie qui distinguait les anciennes mœurs. Ces jeunes gens s'amusèrent comme jadis s'amusaient Charles IX et ses courtisans, Henri V et ses compagnons, et comme on s'amusa jadis dans beaucoup de villes de province. Une fois confédérés par la nécessité de s'entraider, de se défendre et d'inventer des tours plaisants, ils se développent chez eux, par le choc des idées, cette somme de malignité que comporte la jeunesse et qui s'observe jusque dans les animaux. La Confédération leur donna de plus les petits plaisirs que procure le mystère d'une conspiration permanente. Ils se nommèrent les chevaliers de la désœuvrance. Pendant le jour, ces jeunes singes étaient le petit saint. Ils affectaient tous d'être extrêmement tranquilles. Et d'ailleurs, ils dormaient assez tard, après les nuits pendant lesquelles ils avaient accompli quelques méchantes œuvres. Les chevaliers de la désœuvrance commencèrent par des farces vulgaires, comme de décrocher, de changer les enseignes, de sonner aux portes, de précipiter avec fracas un tonneau oublié par quelqu'un à sa porte dans la cave du voisin, alors réveillé par un bruit qui faisait croire à l'explosion d'une mine. À Issoudun, comme dans beaucoup de villes, on descend à la cave par une trappe dont la bouche placée à l'entrée de la maison est recouverte d'une forte planche à charnière avec un gros cadenas pour fermeture. Ces nouveaux mauvais garçons n'étaient pas encore sortis, vers la fin de 1816, des plaisanteries que font dans toutes les provinces les gamins et les jeunes gens. Mais en janvier 1817, l'ordre de la désœuvrance eut un grand maître et se distingua par des tours qui, jusqu'en 1823, répandirent une sorte de terreur dans Issoudun, ou du moins en tinrent les artisans et la bourgeoisie en de continuelles alarmes. Ce chef fut un certain Maxence Gillet, appelé plus simplement Max, que ses antécédents, non moins que sa force et sa jeunesse, destinaient à ce rôle. Maxence Gillet passait dans Issoudun pour être le fils naturel de ce subdélégué, M. Lousteau, dont la galanterie a laissé beaucoup de souvenirs, le frère de Mme Hochon, et qui s'était attiré, comme vous l'avez vu, la haine du vieux docteur Rouget à propos de la naissance d'Agathe. Mais l'amitié qui liait ces deux hommes avant leur brouille fut tellement étroite que, selon une expression du pays et du temps, ils passaient volontiers par les mêmes chemins. Aussi, prétendait-on que Max pouvait tout aussi bien être le fils du docteur que celui du subdélégué, mais il n'appartenait ni à l'un ni à l'autre, car son père fut un charmant officier de dragons en garnison à Bourges. Néanmoins, par suite de leur inimitié, fort heureusement pour l'enfant, le docteur et le subdélégué se disputèrent constamment cette paternité. La mère de Max, femme d'un pauvre sabotier du faubourg de Rome, était, pour la perdition de son âme, d'une beauté surprenante, une beauté de transtévérine, seul bien qu'elle transmit à son fils. Madame Gillet, grosse de Marx en 1788, avait pendant longtemps désiré cette bénédiction du ciel, qu'on eut la méchanceté d'attribuer à la galanterie des deux amis, sans doute pour les animer l'un contre l'autre. Gillet, vieil ivrogne à triple broc, favorisait les désordres de sa femme par une collusion et une complaisance qui ne sont pas sans exemple dans la classe intérieure. Pour procurer des protecteurs à son fils, la Gillet se garda bien d'éclairer les pères postiches. À Paris, elle était millionnaire. À Issoudun, elle vécut, tantôt à l'aise, mais tantôt misérablement, et à la longue méprisée. Madame Hochon, sœur de M. Lousteau, donna quelque 10 écus par an pour que Max allât à l'école. Cette libéralité que Madame Hochon était hors d'état de se permettre, par suite de l'avarice de son mari, fut naturellement attribuée à son frère, alors à Sancerre. Quand le docteur Rouget, qui n'était pas heureux grand garçon, eut remarqué la beauté de Max, il paya jusqu'en 1805 la pension au collège de celui qu'il appelait le jeune drôle. Et comme le subdélégué mourut en 1800, et qu'en payant pendant 5 ans la pension de Max, le docteur paraissait obéir à un sentiment d'amour-propre, la question de paternité resta toujours indécise. Maxence Gillet, texte de 1000 plaisanteries, fut d'ailleurs bientôt oublié. Voici comment. En 1806, un an après la mort du docteur Rouget, ce garçon qui semblait avoir été créé pour une vie hasardeuse, doué d'ailleurs d'une force et d'une agilité remarquables, se permettait une foule de méfaits plus ou moins dangereux à commettre. Il s'entendait déjà avec les petits-fils de M. Hochon pour faire enrager les épiciers de la ville. Il récoltait les fruits avant les propriétaires, ne se gênant point pour escalader les murailles. Ce démon n'avait pas son pareil aux exercices violents. Il jouait au bar en perfection. Il aurait attrapé les lièvres à la course. Doué d'un coup d'œil digne de celui de bas de cuir, il aimait déjà la chasse avec passion. Au lieu d'étudier, il passait son temps à tirer à la cible. Il employait l'argent soustrait au vieux docteur à acheter de la poudre et des balles pour un mauvais pistolet que le père Gillet, le sabotier, lui avait donné. Or, pendant l'automne de 1806, Max, alors âgé de 17 ans, commit un meurtre involontaire en effrayant à la tombée de la nuit une jeune femme grosse qu'il surprit dans son jardin où il allait voler des fruits. Menacé de la guillotine par son père, le sabotier, qui voulait sans doute se défaire de lui, Max se sauva d'une seule traite jusqu'à Bourges. Il rejoignit un régiment en route pour l'Espagne et s'y engagea. L'affaire de la jeune femme morte n'eut aucune suite.